Nous avons le grand plaisir d'avoir Marc Mézard qui va pouvoir rester un petit peu, pas trop, parce qu'il a plein d'autres activités, bien évidemment. Et on va lui donner la parole tout de suite. Et puis après, ce sera Antonin Delpoche qui nous présentera Disséline. Et puis ensuite, nous aurons Stéphane Cotin qui est ici, qui nous parlera, qui nous mettra le cadre général historique et puis où est-ce qu'on en est au point de vue open access. Et puis ça lancera le débat ensuite avec la salle. Voilà le programme.
Merci. Oui, je suis très, très content que se tienne cette réunion ici aujourd'hui. Cette question de l'open access, c'est une question qui me tient à cœur. Je vais être obligé, néanmoins, vu le contexte de cette séance, de dire que je ne vais pas m'exprimer complètement au nom de l'institution aujourd'hui, tout simplement parce que je pense que c'est un sujet qui est assez complexe et qui doit être instruit en conseil scientifique, conseil d'administration, et ceci n'a pas été fait vraiment jusqu'à présent. Donc je vais me contenter, vous allez vous contenter de ma maigre parole de chercheur et de néanmoins directeur de l'école normale, donc chercheur scientifique et directeur de l'école normale qui me donne une vision un petit peu plus large du sujet, parce que je pense que c'est important au sens où c'est un sujet dans lequel il m'apparaît très clairement qu'il y a une différence de perception entre les chercheurs des sciences dites dures, mettons, et les chercheurs des sciences humaines et sociales. C'est quelque chose qui est apparu de manière extrêmement vive, en particulier dans les derniers jours, puisque à l'occasion de la discussion de la loi, j'ai vu arriver une avalanche de courrier électronique dans ma boîte de ce week-end. C'était d'ailleurs très intéressant, et je voudrais dire que je salue cette initiative de faire discuter un petit peu, de mettre sur le débat public des articles de loi et des possibilités d'amendement. C'est en tout cas, ça donne l'occasion à des points de vue de s'exprimer. Et j'ai vraiment pu percevoir à cette occasion cette différence de perception extrêmement nette entre différentes communautés de chercheurs éminents et tous très respectables qui sont à l'école. Alors pourquoi cette différence? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est la structuration du paysage des éditions. En sciences dures, nous sommes arrivés dans un système où il y a un certain nombre de grands acteurs mondiaux qui captent le marché, qui offrent un service qui est relativement maigre, une valeur ajoutée qui n'est pas évidente, et qui ont tendance à confisquer les publications, en un certain sens. Voilà. Donc, la réaction des chercheurs du côté des sciences me semble parfaitement légitime et je la soutiens totalement. Le paysage du côté des sciences humaines et sociales est plus complexe au sens où il y a un certain nombre d'éditeurs qui font un vrai travail d'éditeur d'abord, ce qui n'est pas le cas des grandes revues dont je parlais tout à l'heure. Ce vrai travail d'éditeur est un travail d'accompagnement intellectuel et de mise en forme qui, pour certaines disciplines, apporte un vrai plus. Donc je pense que il faut avoir ça en tête, et par ailleurs, au lieu d'avoir quelques grands acteurs mondiaux, comme en sciences, nous avons une multitude de petites maisons d'édition en France, qui publient en français, et dont l'activité, l'apport intellectuel me semble, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, me semble absolument indéniable. Et donc, nous avons aussi le souci de préserver cet écosystème. Je crois que ça, c'est, il faut vraiment avoir en tête ces différents aspects quand on discute de ça, parce que on a tendance à faire des déclarations péremptoires basées sur le système, l'écosystème auquel on appartient, et donc je crois que ça c'est quelque chose qui me semble essentiel à garder en tête. Alors, de mon point de vue, mettant de côté la question des monographies, sur lesquelles néanmoins on pourrait imaginer de revenir un jour, parce qu'il n'y a pas tellement de raisons de les garder complètement à l'écart, je suis évidemment extrêmement favorable et prêt à aller dans le sens de toutes les initiatives qui vont vers l'accès public, l'accès complet du public aux publications qui ont été financées par des fonds publics. Ça me semble une évidence. Il y a deux voies pour ça. Il y a le fait que les éditeurs eux-mêmes mettent en ligne spontanément, si j'ose dire. Donc c'est la mise en ligne électronique. Il y a la question du délai, donc ça, ça a été beaucoup débattu dans les derniers temps. Je ne vais pas rentrer dans ces questions techniques, parce que c'est vraiment, du coup, technique. C'est-à-dire, est-ce que l'éditeur doit, peut, et dans quelles conditions, et est-ce que ça doit dépendre des disciplines, avoir une période d'embargo où il ne veut pas mettre en ligne ouvert au public. Ça, c'est une première voie. Une deuxième voie, c'est celle des archives ouvertes. Archives ouvertes dont nous avons, moi je suis physicien en physique, une longue pratique qui fonctionne bien, qui nous donne satisfaction. Elle est basée sur un acte volontaire du chercheur qui, avant même, parfois, même très souvent, avant même de soumettre sa publication, la dépose en ligne sur une archive. Alors là, se pose la question, dans le dépôt sur l'archive, de savoir si et à quel moment on met la version finale mise en page par l'éditeur et revue après le travail des référis, le travail des rapporteurs, qui, en général, ont apporté une contribution, en un certain sens, par leurs critiques qui ont permis d'améliorer un article. Donc ça, c'est une autre question qui est ouverte. Donc, pour dire que ceci étant posé, il y a des aspects légaux, il y a des aspects économiques, il y a des aspects pratiques. Donc cette fameuse loi sur le numérique a initié pas mal de discussions là-dessus, je salue ça. Pour moi, il y a dans ce qui a été discuté, donc tous les articles qui vont dans le sens de dire il doit être possible de déposer sur archive ouverte, ça me semble une très très bonne notion. En revanche, et là de nouveau à titre personnel, je souligne encore une fois que c'est un débat que nous n'avons pas eu en instance, donc je ne veux pas engager l'école normale en tant que telle, mais je trouve que il y avait un, ou je ne sais plus si c'était un ou plusieurs amendements qui étaient discutés sur la notion de mise, de dépôt obligatoire sur une archive ouverte. Là, je suis personnellement plus réservé sur cette notion-là, plus réservé au sens où d'abord... le caractère obligatoire, froisse un petit peu, et d'autre part, à cause de ce que je disais tout à l'heure sur la diversité des situations. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur la même situation quand on travaille avec Springer, avec une grande maison d'édition mondiale qui, au passage, fait des milliards de bénéfices sur la recherche, la publication de la recherche. Et puis quand on a publié dans une petite revue de SHS dans laquelle l'apport, y compris intellectuel, de l'éditeur peut être considérable, que ce soit au moment où il a suggéré d'écrire l'article ou au moment où il l'a suivi. Et je trouve que du coup, laisser la liberté, une certaine liberté aux chercheurs, l'autoriser bien sûr à déposer, mais lui laisser une certaine liberté dans le moment où il va déposer, me semble indispensable, parce que ça me semble être une piste, en tout cas, à explorer, qui permet de faire vivre cette diversité. Pour dire très franchement, il me semble que, très naturellement, un chercheur scientifique qui publie dans Nuclear Physics, par exemple, il est tout à fait content qu'il puisse mettre directement son papier en ligne sans aucun problème. Qu'un chercheur qui a publié dans une petite maison de sciences humaines et sociales dans laquelle il y a eu un travail d'éditeur, etc., qu'il se dise lui-même « Ah mais tiens, j'ai cette relation avec cet éditeur, elle est importante, et peut-être que je vais attendre quelques temps avant de mettre complètement en ligne », ça ne me choque pas. Voilà, donc c'est une position de nouveau personnelle. Donc j'en viens à un troisième aspect, donc il y a les aspects... aspects juridiques, mais il y a un aspect que je trouve très intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui avec Dissémine, c'est l'aspect concret. C'est-à-dire que Dissémine offre aussi une réponse concrète dans le cadre légal existant, et ça me semble extrêmement important. C'est-à-dire que, y compris dans le cadre légal existant, le nombre d'articles mis à disposition du public est encore, à mon avis, insuffisant. Et je pense que, de ce point de vue-là, avoir un outil qui aide les chercheurs à s'y retrouver, à savoir si leurs sites ont été ou n'ont pas été mis en ligne, parce que souvent le chercheur ne le sait pas, et à l'aider à déposer l'article sur, expliquer sur quelle base de données il va pouvoir et sur quelle base de dépôt il va pouvoir mettre son article et comment s'y prendre et essayer de ne pas y perdre trop de temps, me semble une initiative très intéressante et qui permet de gagner en efficacité. Donc c'est pour ça que quand on en a parlé ensemble il y a déjà, je ne sais plus quoi, quelques mois, j'avais soutenu cette initiative et je n'ai pas eu le temps de suivre comment ça s'est développé, mais j'espère que ça s'est bien développé. Je sais que c'est un problème qui, techniquement d'ailleurs, n'est pas du tout facile, mais je me réjouis qu'il y ait des gens dans cette école qui sachent nous aider à surmonter des problèmes techniquement difficiles pour apporter aussi une solution à une question politique importante. Je voudrais juste dire un dernier mot donc, sur le sujet général. Il me semble qu'il y a un autre aspect qui est partiellement déconnecté, mais qui est quand même à garder en tête. C'est que si on prend une perspective de très long terme, l'impact de la publication en mode numérique est évidemment majeur. On voit bien que d'un certain nombre de revues se retrouvent en édition uniquement numérique et ce basculement est en train de se faire et on ne l'évitera pas. C'est quand même une énorme préoccupation, je trouve, du point de vue de la pérennisation du travail intellectuel, savoir est-ce que vraiment nous serons capables d'avoir des structures qui doivent être des structures très fortes, qui sont capables de transformer, de faire passer d'un support à un autre, de faire passer d'un format à un autre, et de résister aux incendies, aux inondations, aux guerres, que sais-je, faire en sorte que ce qu'on a écrit l'année dernière soit accessible dans 500 ans. Moi, je vous avoue que ça me préoccupe énormément, cette question-là, parce que je ne suis pas du tout sûr qu'on soit capable de faire ça. On est probablement capable de le faire dans un environnement stable, et encore, il y a des questions économiques qui sont pas évidentes, dans un environnement qui, sur une échelle de siècles, l'histoire nous apprend que l'environnement n'est pas stable sur l'échelle de plusieurs siècles, ça me semble être une question éminemment délicate. Voilà. Donc je termine par une petite anecdote là-dessus pour dire ce à quoi je pense vraiment. J'ai écrit un livre en 1987. Ce livre, je l'avais tapé sur un Macintosh à l'ancienne. Quelques-uns dans la salle ont vécu ce temps-là, vous ne pouvez pas savoir ce que c'était. Il y avait quelque chose qu'on appelait des biscottes, enfin c'était des disquettes exactement. Donc c'était un logiciel qui était un logiciel maison de Macintosh avec des disquettes, etc. J'ai évidemment perdu les disquettes un jour parce que je n'avais plus le Macintosh dans lequel elle rentrait, etc. Donc au détour d'un déménagement, tout ça a été complètement perdu. Et il y a 3 ans ou 4 ans, un de mes co-auteurs m'a dit « Ah ben tiens, je t'envoie ton livre, je t'envoie notre livre ». Donc il l'avait trouvé piraté, scanné, piraté, mis en ligne par un site russe, en l'occurrence, comme ça arrive souvent. Je me suis empressé de le mettre sur mon ordinateur, la conscience très tranquille, c'était quand même moi qui l'avais écrit. Ça me rendait un service énorme, puisque je ne l'avais pas sous forme numérique. Donc comme tout le monde, j'aime bien l'avoir sur l'ordinateur. Et je fais un appel, ce livre s'appelle Spinglass Theory and Beyond, et je n'en ai que les 2/3. Ces bougres-là, ils n'en ont scanné que les 2/3. Et l'autre jour, j'ai voulu rentrer et chercher une information qui était dedans, il me manque le dernier tiers. Donc c'est une petite, voilà, c'est une petite anecdote, un petit trait d'humour. Mais pour dire quelque chose, je pense que malgré tout, y compris du point de vue des auteurs, je pense que, y compris sur des monographies, c'était le cas, on doit se poser la question de l'accès libre au livre et de la mise en ligne au bout d'un certain temps. Je ne sais pas si ce temps, c'est la trentaine d'années dont je viens de parler pour évoquer ce livre de 1987, ou si c'est plus court ou plus long, mais je pense que c'est un sujet sur lequel on doit absolument avoir un jour aussi les débats. Voilà, j'ai essayé de tracer quelques grandes lignes, et de nouveau, je vous souhaite une très bonne discussion autour de Dissémine. Vous allez montrer comment ça marche.
Oui, voilà, on va faire une petite démo rapide.
Voilà. Ben, utilisez-le et mettez en ligne vos papiers sur des archives ouvertes.
Merci beaucoup. Donc on a eu la chance d'avoir déjà une très bonne introduction au problème de l'open access. Donc je vais très rapidement récapituler.
Si tu préfères ça.
Ouais, si il marche, pourquoi pas.
Remets le bouton en dessous.
Ok.
Non. Ça marche.
Est-ce qu'on a vraiment besoin de micro?
Oui. En général, oui.
Ça marche.
Est-ce que celui-là marche? Vous entendez ce micro?
Ah oui, parfait. Ouais. Merci beaucoup. Donc, le problème de l'open access, c'est un problème qui nous occupe dans notre équipe de chercheurs et d'étudiants depuis maintenant plus d'un an.
On s'est mobilisé pour sensibiliser les chercheurs à l'ENS et ailleurs pour mettre en ligne leurs papiers et pour faciliter la transition vers un nouveau modèle de publication. Et pourquoi on pense que c'est important cette mobilisation? Parce qu'en fait, c'est un problème qui est très peu visible quand on est chercheur ou étudiant typiquement à l'ENS. Quand on cherche une publication, généralement, c'est assez simple de la trouver. Pour le chercheur, l'accès aux publications ressemble à ça. On a beaucoup de sites avec beaucoup de liens qui nous permettent d'accéder à beaucoup de contenu. Quand on ne trouve pas le contenu, on peut toujours aller à la bibliothèque, demander l'achat d'une revue particulière dans laquelle on pourra trouver l'article en question. Et donc pour nous, l'accès aux articles n'est pas du tout un problème. Pourtant, derrière la scène, il se passe beaucoup de choses dont on a très peu conscience quand on est juste un utilisateur. Et c'est un oligopole de quelques maisons d'édition, en sciences en tout cas. Monsieur le directeur a bien mis en avant le fait qu'en sciences humaines, le problème était assez différent, et donc il fallait le prendre en compte. Mais en tout cas, en sciences, voilà, le milieu de la publication scientifique est vraiment monopolisé par quelques grandes entreprises qui font des profits démesurés à partir du financement public de la recherche. Donc pour nous, c'est pas vraiment un problème parce que l'ENS a pour l'instant les moyens d'acheter ses revues, mais pour beaucoup de gens dans d'autres pays, avoir accès aux publications est très difficile et donc empêche les gens de faire leur recherche. Et puis il y a aussi un problème auquel on ne pense pas toujours, qui est le conflit d'intérêts entre ces grandes entreprises qui vendent à la fois l'accès aux publications et les outils d'évaluation des chercheurs. C'est-à-dire que Elsevier, par exemple, va vendre à la fois l'accès à des revues, mais aussi l'accès à SciVal, qui va permettre d'évaluer vos chercheurs en fonction des revues dans lesquelles ils publient. Donc vous comprenez très vite qu'il y a quand même un petit problème dans cette collusion. Donc, pour lutter contre cet état de fait, beaucoup d'universités ou d'institutions de recherche en général ont pris l'initiative d'encourager leurs chercheurs à mettre leurs publications en accès libre. Et donc il y a beaucoup de dépôts qui ont été mis en place pour ça, certains qui sont thématiques, d'autres qui sont propres aux institutions. Et donc ces politiques marchent, on a déjà beaucoup d'institutions qui ont réussi à encourager l'open access dans leur mur. On pense en particulier à Harvard, où il y a une politique très très volontariste qui a donné le droit aux chercheurs de mettre en ligne leur publication. À Liège, où c'était un modèle un petit peu différent, le recteur a décidé de calquer l'évaluation de ses chercheurs uniquement sur les publications qui sont disponibles librement. Et à l'INRIA, où un modèle semblable a été mis en place en France. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on fasse tout simplement une initiative semblable à l'ENS. Il n'y a pas de raison qu'on soit à la traîne sur ce sujet. Mais ce n'est pas évident à mettre en place parce que il y a divers domaines qui ont des problèmes différents, sciences sociales et sciences dures, et aussi il y a beaucoup de diversité de situations parmi les chercheurs affiliés à l'ENS. En particulier, beaucoup sont affiliés à d'autres universités. Ça marche ?
Non. Ça veut dire que
c'est
une sorte de pile.
Ouais. C'est ça ? Oui, ça marche comme ça, non ? Je vais monter un peu le ton. D'accord. Donc, beaucoup de chercheurs sont affiliés non seulement à l'ENS, mais aussi à d'autres labos, d'autres universités, et typiquement en informatique, vont déjà tomber sous le coup de la politique de l'INRIA, par exemple. Donc, on ne peut pas tout simplement se permettre de leur exiger de ces chercheurs qu'ils mettent toutes leurs publications dans un dépôt particulier qui n'aura pas beaucoup de sens dans leur communauté. Donc, pour résoudre ce problème, on a développé une plateforme qui s'appelle Dissémine et qui vous permet de prendre en compte en fait les pratiques actuelles des chercheurs dans leur auto-archivage de leurs papiers. Donc, le système repose sur un type de diagramme fait par Robin Champenois, qui n'est pas là, mais qui va être venir. Donc, pour chaque chercheur, on analyse ses publications et on détecte si elles sont déjà disponibles dans des dépôts. C'est la partie verte du cercle intérieur. Ces publications peuvent être disponibles depuis la maison d'édition elle-même, parfois, mais bien plus souvent depuis l'auteur qui les a mis en ligne sur un dépôt. Et pour les publications qui sont indisponibles, la partie rouge du cercle intérieur, on indique aux chercheurs quelle est la politique de la maison d'édition en matière d'auto-archivage. Donc là, le premier secteur bleu clair, c'est le secteur des papiers qui pourraient être mis en ligne d'après la politique de la maison d'édition. Ensuite, c'est les politiques pour lesquelles on n'est pas tout à fait sûr de pouvoir dire qu'elles pourraient être mises en ligne. Et le dernier tout petit secteur correspond aux politiques qui ne peuvent pas mettre en ligne les papiers. Donc vous voyez qu'un énorme manque à gagner, qu'on a envie de combler. Et donc pour combler ce manque, on propose aux chercheurs de mettre directement en ligne leurs papiers depuis notre plateforme. Donc un chercheur est mis face à une page de ce type où il a une liste de publications, les statistiques à droite. Pour chaque papier qui n'est pas en ligne, il a un petit bouton qui lui permet de la mettre en ligne directement dans un dépôt. Il a les détails de la politique de la maison d'édition qui s'affiche, qui lui permet de savoir quelle version de son papier il va pouvoir mettre en ligne. Et ensuite, il lui suffit de sélectionner un fichier PDF sur son ordinateur qui correspond à la version choisie, et le papier sera mis en ligne dans un dépôt qui n'est pas 10000 lui-même, mais qui est un dépôt bien établi. Pour l'instant, uniquement Zenodo, qui est le dépôt du CERN en Suisse. Mais on a pour projet de supporter plus de dépôts. Et voilà, et ça permet de mettre en ligne le papier directement à partir de notre interface. Donc on voudrait essayer d'utiliser cet outil à l'ENS et ailleurs d'ailleurs pour encourager la mise en ligne des articles.
Petite question à ce propos, est-ce qu'on peut dire qu'un article n'est pas des mots ? Il y a la personne qui s'appelle Peter Sewell.
Oui. Alors, la solution à ce problème, ça s'appelle ORCID. C'est un service qui va permettre d'identifier de manière unique les auteurs d'un article donné. Donc, j'en ai pas parlé là, mais si vous allez sur le site, vous verrez que une des premières choses qu'on vous demande, c'est de vous authentifier via ORCID, qui est donc ce répertoire des articles d'auteurs en fait. Voilà. Donc,
il y a aussi un utilitaire pour désambiguer, c'est-à-dire que tu laisses l'auteur pouvoir dire cet article n'est pas moi.
Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc on veut développer l'utilisation de cet outil à l'ENS, et puis comme c'est un outil assez générique, en fait on est aussi en contact avec d'autres universités qui sont intéressées, et donc on va peut-être étendre l'outil à ces universités. Et voilà. Fin de mon exposé.
Si vous avez des questions sur l'outil Dissémine, je vous propose de les poser maintenant. Et puis ensuite, dans la partie débat, on pourra naturellement y revenir. Mais là, si vous avez des questions techniques... je voulais juste préciser que Zenodo, c'est quand même un très très bon choix qu'ils ont fait, parce que c'est un site, on va dire, officiel dans le cadre de OpenAir, qui est le réseau européen. Si vous ne savez pas où déposer, l'idéal, c'est par défaut d'aller dans Zenodo. Parce que Zenodo, c'est garanti par la Commission européenne, et c'est le repository choisi pour tous ceux qui ne savent pas où aller. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix a priori, et c'est un très bon choix, parce que c'est le CERN qui est derrière, il y a une pérennité garantie.
Est-ce que par exemple, il y a moyen d'indiquer, si jamais son propre site n'est pas répertorié quelque part sur les bases de données, les articles qui sont sur notre site ne sont pas répertoriés, est-ce qu'il y a moyen de donner le lien de notre site plutôt que de...
Alors, vous pouvez donner le lien vers le PDF qui est hébergé sur votre site. Dans ce cas-là, on prendra ce PDF et on le mettra justement dans un dépôt bien indexé. Parce que le problème des pages web, c'est qu'elles ont tendance à changer de place, à mourir, et elles ne sont pas facilement indexables. Donc, on veut vraiment encourager l'utilisation des dépôts qui sont des solutions plus fiables et plus rodées techniquement pour mettre en ligne nos papiers.
Là, typiquement, par exemple, dans mon cas, ça fait plus de 15 ans que je mets tous mes articles et la version publiée, parce que moi, je considère que c'est celle-là qui est la référence scientifique avec la bonne pagination, etc., sur mon site personnel. Mais ça n'est pas fiable, parce que le jour où mon site n'est plus maintenu, ça disparaît. Et ils ont tout à fait raison. Ils veulent, bon, a priori, le rôle de Dissémine, c'est d'aider les chercheurs à aller vers des sites pérennes. Parce que cette solution est une solution individuelle, Alors Google Scholar trouve naturellement tous vos articles, mais peut-être qu'un jour Google Scholar ne les retrouvera plus non plus. Là aussi, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Alors que quand c'est dans un site d'archives un peu officiel, avec la pérennité, et puis autre chose qui me semble très importante, de ce point de vue-là, Marc Mézard, j'avais un petit peu envie il a bien évidemment des angoisses quant à savoir la pérennité du support électronique. Mais justement, c'est la reproduction sur un très grand nombre de repositories. Parce que ce que fait Dissémine, qui est très original, c'est qu'ils moissonnent. Ils vont eux-mêmes sur le regarder tout le web, plein de sites particuliers, où ils savent qu'ils vont récupérer tous les articles aussi largement que possible. Et c'est ça la beauté de ce qu'ils font. Alors que le principe pour moi, c'est qu'un chercheur doit déposer une fois quelque part. Et après, chaque site qui veut récupérer vos articles, c'est à lui d'aller les chercher. Il ne faut pas embêter le chercheur à recommencer plein de fois ce travail, c'est idiot, c'est du temps perdu. Et mieux que ça, une autre chose très belle qu'ils font dans leur repository, comme ils moissonnent, ils ont récupéré tout ce qu'on appelle les métadonnées. C'est-à-dire quand vous déposez dans un site, en fait, vous perdez un temps fou à remplir les noms, les labos, les ci, les ça, blablabla. C'est ça la partie désagréable du dépôt. Et en fait, ça, ils le font automatiquement parce qu'ils l'ont trouvé par ce moissonnage. Et malheureusement, votre article donc, n'est pas disponible en accès ouvert, donc il leur manque que l'article. Et là, ils vous demandent à vous, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes d'accord pour mettre votre article. Et ça se fait en principe en un clic. Ouais. C'est ça l'idée.
Oui, bonjour, Christine Hender, je suis bibliothécaire aux arts et métiers. J'ai eu l'occasion de tester Dissémine après Jean Open Access l'autre jour. Et ce qui m'a un petit peu inquiété, je me suis demandé comment vous gériez les embargos. Parce que par exemple, j'ai pris le cas d'un article et dans Elsevier. Elsevier est marqué dans Sherpa Romeo, alors suivi du jargon, vous me dites, est marqué dans Sherpa Romeo comme une politique verte.
Oui.
Pour le pré-print et pour le post-print. Or, si on va voir bien clairement leur politique, en fait, leur politique verte, elle est avec des embargos entre 1 et 48 mois, enfin entre 1 an et 4 ans.
Oui.
Comment vous faites, hein?
Alors, déjà, on a la possibilité de différencier les politiques en fonction des revues dans lesquelles sont publiés les articles. Donc normalement, si votre article est publié dans une revue, on va aller chercher la politique qui s'applique à cette revue.
Ouais, mais c'est plus le cas des Elsevier maintenant sur Sherpa.
Oui.
Ils ont mis la politique de leur revue dans un PDF qui est en lien. Enfin, c'est très malin.
Oui. Ça s'appelle manipuler les chercheurs. Et ça, dans un certain sens, il ne faut pas se laisser faire. C'est pas difficile de ne pas se laisser faire. Il y a les éditeurs des revues d'Elsevier, et ceux-là, on les met en grève. Moi, je suis en grève depuis 3 ans en tant qu'éditeur d'une revue.
Oui, moi, en tant que.
Et le système, il va s'arrêter un jour.
Quand je dépose pour un chercheur, je suis obligée de répéter.
Non, mais je sais, vous êtes coincé. Mais en tant que système, quand même, les chercheurs, on a les moyens d'agir. On n'agit pas, mais on a les moyens d'agir en principe.
Effectivement, pour la durée des embargos, on essaye de refléter les données qu'on a. C'est pas facile parce qu'effectivement elles sont pas structurées, elles sont cachées dans les PDF, et même quand elles sont disponibles directement sur Sherpa, c'est pas forcément facile à répercuter. Ça fait partie des choses qu'on aimerait améliorer. Il y a beaucoup de travail, et si l'outil est utilisé, évidemment, on pourra travailler sur ce problème. Ouais.
Sur le stockage des métadonnées, est-ce qu'il existe un format simple d'échange des métadonnées pour reproduire, enfin, vous avez tout un travail de création d'un format d'échange de métadonnées sur votre moissonnage?
Non, on utilise essentiellement un format qui s'appelle OAII Dublin Core, qui est un format assez standard justement d'échange de métadonnées entre dépôts. Il y en a d'autres, et ils sont essentiellement interopérables. Mais on n'a pas eu besoin de définir un standard.
Donc si je comprends bien, avec ces métadonnées, vous pouvez aller, une fois que vous avez l'article uploadé, le mettre sur d'autres bases, pas seulement Zenodata.
Voilà,
c'est pas encore actif maintenant, mais votre projet, c'est on peut choisir d'aller la mettre sur Archive.
Exactement.
Automatiquement.
Voilà,
Google,
c'est ça.
Excellent.
Bon, j'ai bien compris que ça dépend de la politique de chaque éditeur, mais est-ce qu'il y a quand même une recommandation générale qui est, si un chercheur met un article, il ne va pas mettre la version publiée, le PDF exact. Mais par contre, il pourrait mettre le même texte, mais avant la mise en forme, par exemple. Est-ce qu'il y a une recommandation comme ça ou pas, parce que c'est un débat.
Ça dépend beaucoup des maisons d'édition, en fait.
Ouais.
Et ça, c'est très facile à le voir sur le site. On a 3 versions pour un article. Le pré-print, qui est la version initiale de l'auteur. Le post-print, qui est une fois que la version initiale a été complétée par les commentaires des rapporteurs. Et la version finale, qui est celle qui a été mise en page par la maison d'édition.
Et donc pour chaque maison d'édition, vous pouvez voir quelles versions parmi ces trois peuvent être mises en ligne.
Et là, si vous me permettez, vous faites une très belle transition vers quelque chose, vers l'autre partie de cette conférence, parce qu'en fait, la loi qui est en discussion, vous avez tous entendu parler de la loi pour une république numérique, la loi d'Axel Demers, il y a l'article 9 qui justement va tout à fait dans ce sens-là, qui fait que il y aura, même si on va mettre dans la loi une obligation qui permettra aux chercheurs d'être couverts, c'est-à-dire même s'il a signé un copyright agreement qui l'engage pour 70 ans après sa mort, il y aura une durée minimale, alors ça c'est mon évaluation, les chercheurs comme moi on est pour zéro, mais bon, je pense qu'on va converger vers 6 mois pour les sciences exactes, 12 mois pour les sciences humaines et sociales, et au-delà de cette période, il met son article, alors toujours la version préprime, c'est-à-dire on n'a pas besoin de la mise en page du publisher, mais nous en maths ou en physique, la mise en page du publisher ne sert strictement à rien. On donne l'article à la rédaction, même à la soumission, c'est-à-dire c'est quand on l'envoie pour qu'il réalise, c'est déjà... Alors je reconnais, je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Marc Mézard, les sciences humaines et sociales, c'est une écologie différente, c'est une économie différente, et je comprends, je conçois très bien qu'il faille être protégé, au moins dans une période de transition. On n'est pas dans les mêmes systèmes, et une partie de ce qu'on dit s'applique surtout aux revues internationales, dans les sciences dures, ou les sciences humaines et sociales, mais vraiment qui sont publiées en anglais, ce serait des grosses boîtes multinationales. Antonin n'a pas donné les chiffres, mais par exemple, le profit de l'ESPIR il y a 2 ans, c'était 39%, et ça augmente de 6% tous les ans, donc ils vont passer à 41%. Et récemment, à Couperin, on a eu un exposé assez impressionnant de quelqu'un qui venait des yeux des investisseurs de la banque, et qui a montré comment les actions de l'ESPIR se portent à merveille. C'est vraiment investissez, je vous conseille. Donc voilà, je suis ravie que Stéphane Cotin ait accepté de nous parler. Parce que Stéphane est chargé de mission au secrétariat général du gouvernement. Il est extrêmement impliqué dans toutes les questions open, et en particulier open law. Mais il ne va pas vous parler d'open law ici. Mais vous savez probablement qu'il y a un mouvement depuis très longtemps en France. Est assez merveilleux. Vous allez sur le site Légifrance, vous voyez toutes les lois, et puis il faut pousser un petit peu plus loin pour généraliser. Donc il y a des choses qui bougent depuis quelques années, même depuis longtemps, puisque Légifrance c'est ancien.
Et août donc, 97.
Voilà, 97. Et donc Stéphane Cotin est très impliqué dans tout ça, et c'est pour ça qu'on a pensé que c'était bien qu'il nous fasse le point à la fois au niveau historique et au point de vue légal. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et je pense qu'il va nous parler de la loi. Ben voilà, c'est affiché. Vous avez une question?
J'ai une question pour Antonin.
Ouais. On va reprendre les questions après. Hein. Ouais. C'était simplement par rapport au timing de l'urgence. Mais vas-y, pose la question.
Donc la première, c'est qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on rentre dans les départements, est-ce que genre, on envoie un mail ou on va voir les chercheurs pour leur dire de mettre leurs articles sur les séries?
Créer un compte ORCID.
Et deuxième question, c'est quels sont vos projets pour l'avenir des séries? Par exemple, est-ce que vous avez réfléchi à le papier review
Alors, dans Dissémine, on n'a pas vraiment pris le temps de remettre en cause justement le peer review. Parce que notre message, c'est vraiment qu'on peut garder l'évaluation par recherche telle qu'elle est et changer le mode de publication. C'est deux questions qui sont relativement indépendantes, mais on est conscient que le mode d'évaluation n'est pas du tout parfait. En tant qu'étudiant, on a du mal à se poser en tant que de proposer une solution pour ce problème parce qu'on a très peu d'expérience.
Oui, mais dans 4-5 ans, tu seras de l'autre côté de la barrière, et là, vous aurez les outils entre les mains, c'est ça qui est formidable. Et on vous remercie, ils nous les donnent. Et ils font ça sur leur temps libre, entre les cours, et c'est quand même, je suis très impressionnée par cette. Stéphane.
Merci Marie.
Je continue la présentation.
Oui, continue la présentation. En fait, je comptais vous apporter des éléments d'information les plus objectifs possibles. Exactement comme votre directeur, je ne peux pas prendre position, je n'ai pas le droit, notamment en tant que...
Si ça te... Je crois qu'il était allumé.
Non, en tant que... qu'adjoint, que chargé de mission auprès du secrétariat général du gouvernement dans une position qui m'est un peu délicate. Donc ce que je pouvais apporter, c'est vraiment des informations objectives sur la réalité et la position du gouvernement depuis d'ailleurs le précédent gouvernement et surtout l'actuel, en faveur de la diffusion libre des données et des articles, des données d'une part, et surtout des articles scientifiques de la recherche, issus de la recherche publique. Ça, c'est très très clair. Il n'y a pas de... Contrairement à ce que peut dire n'importe quel éditeur, il n'y a absolument aucune position en défaveur de la diffusion libre. Au contraire, elle est proposée. Ce que j'aimerais aussi évoquer avec vous, c'est l'histoire du libre accès. Il faut remonter un tout petit peu en arrière. Avant éventuellement de parler d'ailleurs de ce fameux article 9, juste présenter deux, trois petites choses. Enfin, ces liens, tout se trouve sur SlideShare. Vous tapez SlideShare Cotin, vous allez trouver assez facilement ces éléments. Je pense que ça va être aussi distribué. Voilà. Les enjeux de l'open access et surtout son histoire, elle est finalement assez complexe, mais pas si compliquée que ça. On retient, donc c'est une histoire finalement relativement récente, elle ne date que du début des années 2000. Et moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le fait que très rapidement, ça a été pris en compte par le grand public, enfin par les médias, de façon très intéressante, très importante, et à un point qui m'a beaucoup impressionné, notamment la sortie du premier PLOS a fait la une du monde en 2000. Ça, on s'en souvient plus, mais ça avait vraiment fait la une du monde. Ils avaient vraiment eu conscience de l'importance de cette notion.
Après, il faudrait que tu expliques ce que c'est le PLOS, parce que peut-être que dans la salle, tout le monde ne connaît pas.
Donc le PLOS, c'est le premier Public Library of Science. En fait, il y en a plusieurs. Il y a plus PLOS Médecine, PLOS Bio. C'est une revue d'accès libre qui a été la première à utiliser les principes de l'accès libre, d'ailleurs qui sont aussi qui ont été aussi créés en même temps que la norme qu'Antonin a évoquée, la norme Dublin Core, donc qui est la norme Open Access Initiative. Et ce qui est très intéressant, c'est que le nom complet de la norme, c'est OAIPMH, Public Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting. C'est le protocole de moissonnage des métadonnées. C'est surtout cette partie-là qui est très intéressante. Donc les métadonnées sont donc déposées de façon normalisée et peuvent être réutilisées ensuite dans les outils, notamment des moteurs de recherche ou de discovery, ce qui est très à la mode chez les documentalistes en ce moment. On ne parle plus que de discovery. En fait, c'est un nouveau mot pour veille. C'est pas autre chose. Après, d'autres déclarations, les fameuses déclarations qu'on appelle les 3B, Budapest, Berlin et Bethesda, qui ont organisé ces différents principes. Mais en allant sur le site de l'INIST, sur les textes de référence, vous allez trouver énormément de déclarations. Il y a eu beaucoup de discours, beaucoup de débats. Et ça continue encore actuellement sur le mouvement du libre accès qui a donné lieu après à plusieurs initiatives très, très intéressantes. Mais pour une position récente et tout à fait officielle, je vous renvoie au discours de Mme Fioraso, l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, qui est particulièrement clair. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du Green Open Access, du Gold Open Access. Vous pouvez aller... Marie pourra le faire... pour la discussion. Mais sachez que la position du ministre est très, très claire. D'une part, en plus, elle est un peu inquiétante, parce que sa seule certitude, c'est qu'on est en retard. Mais que la voie verte donc, participe, selon elle, même si elle ne jette pas complètement la voie dorée, elle considère que la voie verte est très certainement la façon la plus évidente pour accéder à ce que M. Mézard appelait de son vœu des archives ouvertes, donc l'auto-archivage, qui est une des solutions les plus efficaces. Maintenant, moi, en tant qu'utilisateur justement de ces notions, j'écris aussi. Dans un domaine scientifique qui n'est pas tout à fait le même que le vôtre, domaine juridique est un peu particulier. Mais on a les mêmes problèmes avec les mêmes éditeurs, rassurez-vous. Ma position est plutôt de déposer mes préprints dans une archive ouverte. En l'occurrence, je choisis plutôt une archive internationale, le SSRN, le Social Science Research Network, dans mes slides, pour aller voir, il y a des palmarès des meilleurs entrepôts, et le SSRN cette année est passé deuxième juste derrière Arxiv. Donc, comme quoi, c'est, on est monté d'un cran. Et mes articles sont aussi sur HL, mais je laisse mes institutions faire le choix de déposer mes articles sur HL, généralement par l'intermédiaire de politique, par l'intermédiaire de Cairn, enfin d'autres systèmes de production. Mais c'est les articles finaux sont aussi. Mais c'est absolument pas concurrent. Et de fait, moi, je n'ai déposé que mes articles sur le SSRN à partir du moment où ils ont été peer reviewés. Donc, je ne dépose que des articles qui ont été validés. Le SSRN me permet aussi de déposer des articles en cours d'écriture. Et ils ont donc cette disposition. Si c'est moi qui décide si je les mets à disposition ou pas. Donc la notion d'ailleurs de bien commun, je reviens juste un petit peu en arrière, la notion de bien commun est aussi intéressante. Là, je suis encore sur le discours de Fioraso de 2013, hein, c'est l'information scientifique est un bien commun. Alors cette notion de commun, je pense que vous avez entendu parler de la semaine des communs la semaine dernière. C'est aussi un sujet très intéressant qui mérite d'être analysé. En ce qui concerne maintenant encore plus largement que le gouvernement français, vous savez que les institutions européennes, notamment la Commission, est aussi un vecteur très important en faveur de l'open access, enfin de l'accès ouvert. Vous pouvez aller voir sur les pages officielles d'Horizon 2020. D'ailleurs, il y a j'ai mis les liens vers les liens utiles, le guide de l'open access, le guide pour la gestion, le DFAQ, où vous allez avoir des informations très très pratiques et très utiles. Donc, ils font les définitions essentielles sont particulièrement bien présentées sur le site d'Horizon 2020 sur le sujet. Alors, j'en viens maintenant sur l'article 9 de la loi Valter. De la loi Le Maire, excusez-moi, parce que j'ai trois lois en ce moment entre Macron 2, Valter et Le Maire sur l'open data, sur l'open access. Actuellement, donc, vous avez eu pendant 15 jours sur le site républiquenumérique.fr un débat ouvert sur les différentes positions que la loi Le Maire va projeter. C'est un projet de loi, et vous pouvez voir donc dans le projet de loi, dans son article 9, là je vous ai mis la version avant débat, que le libre accès aux publications scientifiques est évidemment reconnu. Alors là, c'est pas une obligation qui était proposée dans le système. Alors, là, historiquement, ça me permet aussi d'évoquer cette histoire, parce que le Royaume-Uni a une grande antériorité. On a évoqué M. Rentier, le recteur de Liège à Belgique aussi, a aussi pas mal évolué. Et vous avez ces débats qui ont déjà eu lieu en Belgique et surtout au Royaume-Uni. Je vous signale notamment un monsieur qui s'appelle Stephen Arnade, qui s'autoproclame d'ailleurs archivangéliste, évangélisateur de l'archivage, qui, dès l'origine, a promu non seulement le Green Open Access, mais aussi le mandat. C'est-à-dire le fait que les données doivent être, non pas, ce n'est pas une possibilité d'archiver, mais c'est une obligation d'archiver. Donc lui, c'est vraiment, il va encore plus loin que la version Green. Donc l'auto-archivage, c'est une obligation. Vous pourrez surtout voir beaucoup d'insultes contre lui de la part de différents acteurs, mais c'est quelqu'un qui supporte bien les insultes. Et qui surtout a des arguments assez intéressants. Et en ce moment, depuis quelques années maintenant, il est reconnu comme étant vraiment la solution. Et Bernard Rentier d'ailleurs a directement récupéré ces solutions, puisque la solution donc du recteur de l'Académie de Liège, de la faculté de Liège, consiste désormais à obliger la mise à disposition. Donc là, dans la loi, vous voyez que pour l'instant, c'est dispose du droit. C'est un premier pas. Il y a un autre élément aussi qui a beaucoup fait débat et que vous pouvez aller voir d'ailleurs sur le site. Vous remarquerez d'ailleurs que cet article est un des articles qui est le plus négativement reçu. Mais c'est pas sur le fond qu'il a été négativement reçu, c'est sur le fait que d'après ses détracteurs, il n'allait pas assez loin. Alors, non seulement il y a cette histoire de dispose ou d'obligation de mise à disposition, mais il y a surtout l'affaire de l'embargo. Donc l'embargo, donc là l'histoire de le projet tel qu'il a été écrit à l'origine proposait de limiter généralement c'est de 1 an pour les sciences dures et 2 ans pour les sciences humaines et sociales, de les réduire à 6 mois et 12 mois. C'est un point de départ du débat. pour pouvoir mettre d'accord, au moins mettre sur à table tous les acteurs du débat, il fallait lancer le débat. Maintenant, c'est au législateur, parce que c'est une loi, de prendre la décision avec son pouvoir souverain, parce que là, on en est qu'à la le texte n'a même pas encore été présenté en Conseil des ministres. Il faut d'ailleurs, avant qu'il passe devant le Conseil d'État, pour en vérifier la légalité. Donc une fois qu'il sera présenté en Conseil des ministres, normalement d'ici 15 jours, le temps que toutes les réactions soient analysées, je vous assure, j'ai reçu la feuille Excel de toutes les réactions, que toutes les réactions ont été analysées, et hier soir, 650 avaient déjà reçu une réponse. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jaunes, ça veut dire qu'il y avait pas mal de choses qui avaient été intégrées. Donc ça, c'est, moi, je suis pas censé vous le dire. Mais c'est certainement un nouveau projet de loi va être rendu public, notamment de toute façon devant le Conseil des ministres, puis déposé donc au Parlement. Alors là, maintenant, le Parlement, c'est lui qui, il est souverain, il fait ce qu'il veut, hein, s'il décide de changer des dispositions. Ça, j'y peux rien, je suis pas le Parlement, je suis pouvoir exécutif. Mais c'est pour eux qu'on a voté. Rappelez-vous qu'il y a des élections. Cet article donc montre l'intérêt, la chose. Maintenant, des acteurs et des dispositions. Antonin a évoqué Zenodo. Vous avez aussi d'autres supports aussi qui sont très intéressants. Moi, j'ai évoqué le SSRN pour les sciences sociales. Donc c'est surtout pour déposer du. Enfin, formellement, c'est censé n'accepter que des articles en anglais. Mais vous pouvez déposer dans n'importe quelle langue, ça marche quand même. Au contraire, c'est le plus gros des entrepôts en sciences sociales. Et je vous assure qu'en matière de veille, c'est une merveille. Sans jeu de mots, les données sont la possibilité qui est offerte pour déposer sur le, une fois que vous avez déposé sur le SSRN, c'est de participer ensuite à des méga revues, des revues virtuelles qui vont réutiliser, parce que ça c'est aussi la nouvelle notion quand on parle de la directive sur laquelle on parle. La directive européenne qui base nos travaux, la directive de 2003, c'est une directive qui s'appelle Public Sector Information, c'est réutilisation des informations du secteur public. C'est la notion de réutilisation qui est intéressante. Et avec les métadonnées, on peut donc réutiliser et avoir la sécurité juridique qui encadre cette réutilisation. Alors justement, pour cette réutilisation, je vous signale donc le TGIR Humanum, l'ancien TGE Adonis, qui vous permet donc non seulement d'archiver, mais aussi d'exposer vos données, de les stocker, de les traiter, de les diffuser, donc toutes les ressources aussi disponibles. Évidemment, sur HAL, je vous conseille vivement de gérer votre identité numérique, faire appel à des professionnels de l'information pour vous aider à créer votre contorcide, à créer votre idéal. Idéal, c'est la nouvelle norme de présentation des données. Donc une fois que vous avez, mais en fait, vous rassurez-vous, quand vous l'avez fait une fois, c'est plus la peine de le faire une deuxième fois. Le fait de l'avoir créé matériellement, moi je l'ai créé sur, j'avais commencé à créer mon compte sur Google Scholar, et Orcid, dans 5 minutes, le fait de créer mon compte, de me déclarer sur Orcid, il a récupéré, il a moissonné mes données sur Google Scholar, et j'en ai eu que pour 5 minutes à juste changer 2 ou 3 titres, parce qu'il avait mal géré les apostrophes. C'est tout, la seule chose qu'il n'a pas su gérer. Mais c'est vraiment le dédoublonnage était parfait. Après, vous avez une autre notion aussi à la BNF, j'en ai pas parlé, mais en parallèle à l'ISNI, vous avez en parallèle à l'ORCID, il y a un numéro normalisé qui est en train d'apparaître, qui s'appelle l'ISNI, enfin en train. Ça fait depuis 2007 qu'il existe. Rassurez-vous, l'ISNI et l'ORCID marchent en parallèle. Ces deux normes qui sont obligées de discuter entre elles. Leur site, c'est pour vraiment pour les publications, ceux qui publient dans des articles de revue. L'ISNI, c'est pour ceux qui publient des monographies. Et dans l'ISNI, vous avez aussi les personnes morales. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence. Mais il y a une jonction entre les deux. Donc maintenant, l'idéal, ça vous permet de générer et surtout de gérer intelligemment votre visibilité numérique, d'éviter les doublonnages. Et une chose aussi que ça permet aussi d'éviter, ça évite le plagiat. Parce que c'est justement, on peut maintenant beaucoup plus facilement démontrer et prouver que vous avez déposé avant un autre des informations sur un sujet. Donc vous pouvez vraiment gérer ces choses-là. Je vous signale donc sur l'open access donc des liens très importants, notamment sur le... Ça a été évoqué dans la salle tout à l'heure, Héloïse, Roméo et Dulcinea, donc qui sont les trois dépôts des politiques des éditeurs pour... donc Roméo, c'est... En fait, il n'y a que Sherpa et Roméo qui marchent vraiment. Héloïse... voilà, c'est une belle idée. Dommage. Moi, j'ai déclaré mes revues dans je suis la chouette des seuls, dans Héloïse. Mais en tout cas, vous avez des informations sur les sites, donc hypothèse.org, qui est le site du Cléo, qui nous accompagne aussi beaucoup en matière de dépôt libre. Et je vous signale donc le blog de Bernard Rentier, donc, qui est maintenant à la retraite. Mais allez voir le blog de Bernard Rentier, c'est assez décapant, c'est toujours très amusant. Son blog s'appelle Ouverture immédiate, qui veut tout dire. Donc c'est le fameux recteur de de l'Académie de Liège, enfin de la faculté de Liège, pardon. Vas-y. Après, je vais vous compter. Après, le reste des slides, c'est sur l'open data, mais ça, ça peut être. J'avais considéré ça comme un bonus track si vous voulez qu'on en parle.
Les slides sont disponibles
sur SlideShare. Oui, bien sûr. Donc, je m'arrête là, sinon je peux encore parler beaucoup de temps sur l'open data et sur les politiques.
Je me permets une question, parce que vu maintenant que la slide est là, moi j'ai la curiosité de qu'est-ce que ça veut dire un ranking des repositories? C'est quoi les indicateurs pour faire le ranking?
Il y a plusieurs. Là, dans celui-ci, ça c'est un ranking qui est fait par une société espagnole qui vend d'ailleurs des solutions de dépôt.
C'est de ça dont je me méfie.
Mais les quatre critères qu'ils choisissent sont finalement assez objectifs. C'est la taille, d'une part, mais ça ne veut rien dire, parce qu'on peut mettre n'importe quoi.
C'est garbage in, garbage out.
La visibilité, c'est la possibilité de... C'est les liens vers ces articles. Les rich files, c'est ils considèrent comme un rich file des fichiers avec des métadonnées ou sans métadonnées. Et scholar, donc ça en fait c'est quelque chose d'un petit peu subjectif. C'est en fait ce sont les intercitations. C'est différent du... vous pouvez cliquer sur les liens pour avoir la définition précise de ces critères. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire des choix. Alors, je sais parfaitement qu'ils ont changé le système de classement, parce qu'auparavant, les deux entrepôts de Halle étaient dans le top 10. Et depuis l'année dernière, ils sont passés 14e et 15e, c'est dommage. Puis en plus, je les trouve un petit peu ridicule de séparer les... Halle INRIA et Halle SHS, ce ne serait qu'un seul entrepôt Halle, on serait premier.
Mais à titre personnel, j'aime pas ces questions de ranking, parce qu'en fait, les communautés vivent autour de repository. Par exemple, nous, archive en maths et en physique, ça c'est évident. Les économistes, ils ont REPEC.
Ils ont REPEC.
Donc chaque communauté a ses repositories qui fonctionnent avec la culture de la communauté. Et comme on n'empêche personne de moissonner, celui qui a envie d'être le plus gros, avoir le meilleur ranking, il n'a qu'à moissonner plus que les autres, et il aura le plus gros data. Et justement, ça permettra de maintenir une certaine pérennité, parce que si un site disparaît pour une raison qui serait d'être plus financement, eh bien, vos articles existeront ailleurs, qui nous auront moissonné.
Je vous conseille notamment, donc, évidemment pour le CNRS, vous avez Recherche Isidore qui permet de comprendre l'utilité d'avoir ces moissonnages, parce que les données sont bien exposées. Mais de façon encore plus impressionnante, c'est ce que je vous conseille de regarder l'outil de l'université de Bielefeld qui s'appelle BassSearch.net, qui est vraiment le plus impressionnant à mon goût de moissonnage et de récupération des données.
Est-ce qu'on a des questions ?
Stéphane, merci beaucoup.
J'ai remarqué une autre... notamment par exemple sur Alm, on peut choisir la licence, notamment si on veut utiliser une licence libre, ce qui me paraît intéressant. Mais par exemple sur Archive, il me semble que par défaut c'est juste une licence qui leur donne le droit à eux, Archive, d'utiliser le document. Mais dans ces cas-là, est-ce que si on ne fait pas la démarche volontaire de rajouter une licence, c'est pas contre-productif parce que ça empêcherait le moissonnage et enfin la transmission des documents d'un dépôt à un autre?
C'est une bonne question.
Oui, alors effectivement, les avocats de l'open access les plus fervents ont aussi des exigences en termes de licence. Les maisons d'édition ont aussi des exigences. Il faut arriver à jongler entre la politique de votre institution, la maison d'édition, le dépôt.
J'ai une position un petit peu particulière parce que je considère avec beaucoup de spécialistes du droit de la propriété intellectuelle française que les Creative Commons ne sont pas applicables en droit français. Mais bon, ça c'est... Il ne faut pas le dire, hein, parce que sinon... Mais continuez à utiliser les Creative Commons, c'est déclaratif.
Absolument.
C'est déclaratif. Mais en France, on est dans le pays du droit d'auteur, pays de Voltaire, on protège l'auteur. Donc vous êtes toujours protégé. Le droit moral de l'auteur est toujours protégé. Après, ce sont les droits patrimoniaux de l'auteur. Vous en faites ce que vous voulez, y compris les céder à un éditeur. Mais...
Est-ce que je peux me permettre d'expliquer qui ne connaît pas Creative Commons ou aurait besoin d'une explication? Bon, alors non, Creative Commons, ça me semble être quand même une très très bonne solution au jour d'aujourd'hui et probablement pour le long terme. Et il faut faire très attention à l'espèce de production d'un très grand nombre de licences. Chaque éditeur va vouloir avoir sa licence et la question que tu as posée, c'est vraiment une très bonne question. Parce qu'il faut au contraire essayer, à partir du moment où on fait de l'open access, avoir la licence qui a le moins de restrictions possible. Parce que toute licence qui a des restrictions, ça fait que, très précisément, quelqu'un qui vous trouve un article sur le web, s'il n'y a pas une licence précise qui dit est-ce que tu as le droit de l'utiliser, ça veut dire que tu n'as pas le droit de l'utiliser. Parce que soit ça appartient à l'auteur en propre, et donc il faut demander l'autorisation à l'auteur. Utiliser, j'entends, au sens le citer longuement ou faire... Il y a des tolérances sur des petits passages, mais si tu veux vraiment pouvoir le récupérer pour faire un cours ou des choses comme ça, quelque part, la réponse est niette. Mais en général, ça n'appartient pas à l'auteur. En général, et c'est bien ça tout le scandale, ça appartient en fait à la maison d'édition, parce que comme vous le savez probablement tous, si vous êtes chercheur ou étudiant, quand votre article est accepté par le comité éditorial, au moment de la production de l'article, c'est-à-dire soit la mise en ligne, soit encore de temps en temps l'impression papier, l'auteur doit donner son droit d'auteur. Mais ce qui est très grave, c'est qu'il ne le donne pas en droit d'auteur à la française, il le donne en droit du copyright. Et en droit du copyright, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire une petite feuille de papier, ou même maintenant un site internet, un site sur le web, vous allez simplement cliquer, et là, vous lui donnez, il suffit qu'un des co-auteurs signe ce papier pour qu'il engage pour 70 ans après la mort du dernier des co-auteurs, c'est-à-dire qu'il donne la propriété intellectuelle du texte, des figures et des données qui sont physiquement dans l'article pour plus de 100 ans. Donc ça c'est inadmissible. C'est-à-dire qu'en général, quand vous voyez un article sur le web, il appartient au publisher. Donc grosse méfiance. Sauf au sens où vous n'avez pas le droit d'utiliser comme ça. Et même moi, l'auteur, je n'ai pas le droit d'utiliser mon propre article. J'ai des figures dans mon article. Quand je veux faire un livre, un textbook ou même pour un autre article, pour comparer les résultats, je n'ai pas le droit. C'est-à-dire, légalement, ça ne m'appartient plus. Donc, il faut que je demande l'autorisation du publisher, etc. Donc, ça, c'est grave. Alors, pour contrevenir à ça...
C'est pour ça qu'on a écrit ce grand 2 dans l'article 9.
Oui, mais il faut que ça passe maintenant. Hein? Et avant que ça passe, le conseil, c'est que les chercheurs, avant de donner notre copyright, il nous appartient. Donc là, on peut faire une Creative Commons License. Le mieux, c'est faire ce qu'on appelle CC BY, ça veut dire que vous n'allez pas faire de l'argent avec votre travail, vous allez simplement vouloir qu'il y ait attribution. C'est-à-dire que quand on cite votre article, eh ben, on donne votre nom, ça c'est élémentaire. Ça, c'est la licence la moins restrictive possible. Et Stéphane a tout à fait raison, n'est pas compatible avec le droit d'auteur français.
C'est pas compatible,
on n'a pas le droit de donner son droit moral.
C'est parce que ça ne sert à rien, parce qu'en droit français, tout le monde est obligé d'être en CC BY.
Oui,
l'article 121.5 du Code de la propriété intellectuelle impose la patrimonialité.
Stéphane, là je suis d'accord avec toi en principe.
Mais le droit international qui n'existe pas, aujourd'hui, et là je cite même quelqu'un que vous connaissez, Michel Vivant, c'est un jour je lui demandais conseil là-dessus, et Michel Vivant m'a dit, le droit international, il est professeur à Sciences Po, le propriété intellectuelle.
C'est pas beau de dire.
Et il m'a dit, c'est le droit du plus fort. Donc qu'est-ce qui se passe techniquement? Moi, si je suis poursuivi par un publisher pour avoir justement osé mettre mon article en public alors que j'ai donné déjà mon copyright au publisher, donc j'ai pas le droit de le faire, eh bien, je peux me bagarrer en droit français en disant que le crime en anglais, hein,
c'est une félonie.
Voilà. La félonie a été faite sur le territoire français, mais étant chercheur payé par de l'argent public français, on doit appliquer le droit d'auteur. Et auquel cas, je peux les poursuivre pour contrefaçon, parce qu'en fait, la feuille de papier qu'on signe n'est pas valable en droit français, parce qu'en droit français, on doit avoir un contrat.
Délit de contrefaçon, c'est 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende.
Voilà. Mais comment vous allez faire avec Elvire, docteur? Voilà. Et le gros problème, c'est qu'il y a probablement des accords bilatéraux qu'on ne connaît pas, où en cas de poursuite, je serai en fait, l'accord bilatéral franco-américain dira que je serai poursuivi en droit américain, et là, c'est prison, hein. Parce que c'est au niveau fédéral, c'est du crime au niveau fédéral.
C'est une félonie.
Là. Et ça, je connais bien. Bon, les gens qui m'ont aidé à comprendre tout ça, c'est en particulier les lawyers de Creative Commons, parce que Creative Commons, ça a été fait par des lawyers absolument top niveau. Ça a été fait par Larry Lessig, dont j'ai dû entendre parler, et j'ai pris conseil auprès de Paul Bress, qui est actuellement à la tête du conseil d'administration de Creative Commons, qui lui était quand même chairman du Law School de Stanford. Voilà. Et donc, même quand vous adressez à des lawyers, mais le top niveau international, ils répondent, c'est pas clair. Faites un procès, on verra bien. Alors ce jour-là, on verra, mais c'est pas moi qui nous ferai.
Il n'a pas encore eu.
Voilà, c'est ça le problème. Même si quand j'avais écrit l'avis au comité d'éthique, j'avais bien montré ça. J'étais allée avec une série de copyright agreement forms voir les lawyers du CNRS, trois dames, et qui m'ont dit en me regardant droit dans les yeux, vous savez, on n'y connaît rien en copyright. Pourquoi? Parce que ça nous appartient en propre. Et là, il y a peut-être une chose à vérifier d'ailleurs, parce que ça, oui, alors justement, alors après, j'ai vérifié le truc, ça date de la loi d'Avzy. La loi d'Avzy, c'est qu'en fait, le CNRS n'a rien à voir, c'est moi, chercheur, qui signe et qui m'engage que moi. Voilà. Et après, j'ai pris un lawyer français, donc de droit français, c'est lui qui m'a montré que, en fait, on peut les poursuivre pour contrefaçon parce que ce texte n'a pas valeur contractuelle et en droit français, il n'est pas valable. Simplement, comment on fait?
Des questions.
Mais il faudrait peut-être venir avant la
question.
Voilà, pardon.
Question
pour monsieur,
je ne
connais pas le nom.
Stéphane.
Est-ce que vous êtes, parce que j'ai l'impression que les Européens sont quand même pour le libre accès, est-ce que vous êtes en discussion avec les Américains pour avoir une nouvelle législation mondiale qui détruit la propriété intellectuelle, pour ne pas aller aussi loin tout de suite, qui autorise l'open access?
Il y a eu, en 1951, je remonte très longtemps là, une convention qui a été signée par tous les pays, sauf les États-Unis et l'URSS à l'époque. C'est pour ça que dans les...
La Chine,
encore. Si, là-bas.
La Chine.
Qui a créé l'OMPI, l'Office mondial pour la protection de la propriété intellectuelle, et ce qui a donné en France donc, le fameux code de la propriété intellectuelle, donc qui est sur le code sur lequel on se base pour nous protéger. Donc on a une protection à la fois nationale et internationale. Revenir sur ces dispositions, c'est pas évident. Sincèrement, ça a donné. Ça m'étonnerait qu'on s'y remette. En revanche,
La question, c'est est-ce que le gouvernement négocie ou parle de ces questions?
Il en parle tous les 4 ans dans le cadre des SMSI, des sommets mondiaux pour la société de l'information. Donc vous avez tous les 4 ans un SMSI dans une ville particulière. Le prochain, je ne sais plus quand est-ce qu'il a lieu. Il faut suivre les SMSI. D'ailleurs, la première mention de l'open access, c'est au sein du SMSI Tunis qu'elle a eu lieu en 2001.
Quels sont les actionnaires des grands éditeurs des fonds de pension de Floride.
Des fonds de pension de Floride.
Des fonds de pension.
Alors sauf, non, je suis méchant parce que c'est pas vrai. C'est vrai pour Elsevier, mais c'est pas vrai du tout pour Thomson Reuters, qui n'a pas d'actionnaire. Thomson Reuters, c'est une société familiale.
C'est quoi, pardon ?
Thomson Reuters, c'est une société familiale.
D'accord. Et il y a des fonds de pension comment ?
Des fonds de pension de Floride.
De Floride.
J'aurais deux questions. Déjà, à propos de ce que vous disiez, qu'un seul chercheur peut engager tout le monde, ça me paraît un peu bizarre quand même. Enfin, à ce niveau-là, il y aurait un désaccord, mais les autres chercheurs, s'ils ne sont pas d'accord, peuvent aussi dire « Non, moi, j'interdis la publication de mon travail dans cette revue, ça vaut tout le monde. »
Non, non. La loi, parce que là, on est en copyright, donc on est en loi américaine ou anglo-saxonne, c'est tout. Les pays qui sont dans le copyright, c'est essentiellement le monde anglo-saxon et les États-Unis, dit que si tu écris un article avec plusieurs personnes, c'est que vous vous connaissez bien et il y a une fraternité entre les auteurs. Donc, on ne peut pas, il y en a un, mais tu n'as qu'à pas mettre ta signature. Si tu n'es pas d'accord, tu ne mets pas ta signature, point. Donc, si tu es poursuivi...
Une solidarité.
Si toi, tu mets, par exemple, ton article public, alors que tu as signé un copyright, quelqu'un, l'autre auteur, a signé un copyright avec une forme, et si tu es poursuivi, tu seras condamné. Parce que tu as une solidarité entre auteurs. Ça, c'est ça qu'on m'a expliqué.
Il y a une présomption de solidarité en loi du copyright. En revanche, en droit français, la propriété intellectuelle, elle est individuelle.
Donc en droit français, par contre, ça ne marcherait pas cette
période. Il y a une disposition, des dispositions particulières pour les œuvres communes.
Et une autre question que j'avais. Imaginons par exemple qu'un chercheur tente d'arnaquer la maison d'édition en publiant je ne sais trop où d'abord sous licence type Creative Commons avant de signer le contrat. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est lui qui a signé le contrat?
Ça dépend du contrat.
Non, la licence Creative Commons, ça ne veut pas dire publier. Ça veut dire que tu autorises n'importe qui à. Toi, tu as écrit ton article, d'accord? Et tu le mets sous Creative Commons, donc tu autorises n'importe qui à publier. Donc tu autorises aussi. Publisher, c'est-à-dire que techniquement, ça ne gêne absolument pas un publisher. C'est-à-dire, on dit, attends, reprenons un article, c'est d'abord un chercheur qui écrit l'article. Là, ça lui appartient en propre. Si, avant de le soumettre à une revue, il le met sous Creative Commons, il pourra être peer review, etc., l'article est accepté, simplement, il ne pourra pas donner son droit d'auteur parce que, il appartient à tout le monde. Mais quelque part aussi, mais ça lui appartient encore à lui en propre. C'est ça la différence. Il a juste fait la promesse qu'il autorise tout le monde à le publier. Mais il garde son droit d'auteur quand même. Donc le publisher, il peut techniquement le publier sans aucun problème. Simplement, ce qu'il n'a pas, il n'a pas la possession de la propriété intellectuelle de cet article, l'exclusivité sur cet article. Et c'est parce qu'il a l'exclusivité sur cet article qu'en fait, les publishers peuvent faire monter les prix aussi haut qu'ils veulent parce que quand ils négocient avec nos bibliothécaires, ils disent voilà, c'est ça nos conditions et c'est à prendre ou à laisser. Donc on est dans une situation où on s'est fait piéger bêtement parce qu'on a signé ce copyright agreement. Et donc là, ce qu'on est en train d'essayer de mettre. Bon, je ne sais pas si ça va passer, ça fait partie des dernières discussions qui ont lieu par rapport à la consultation dont Stéphane nous a parlé. Mais vendredi, j'ai participé à un groupe. Au NUMA qui était là-dessus, on était un petit groupe de travail là-dessus, et on a proposé, vous pouvez aller sur le site de la consultation,
oui, le lien.
Ça a été déposé dimanche à 21h.
En cliquant sur le lien là-haut, là vous avez...
Voilà, et vous avez le compte-rendu de notre groupe de travail, et dans ce groupe de travail, on demande à ce qu'on ne donne jamais le copyright de façon exclusive, ou mieux que si un chercheur par inadvertance a donné son copyright de façon exclusive, ça n'est pas valable. Et là, on retombe sur le droit de la consommation, c'est-à-dire c'est comme quand tu signes une assurance, tu n'as pas regardé la toute petite truc écrit tout en petit, et là, on peut faire valoir, il y a un nom technique pour ça, que tu étais mal informé, que malheureusement tu as fait une chose, mais la loi te protège sur le fait que tu as donné exclusivement ton droit d'auteur, mais en fait, tu ne pouvais pas. Voilà, quelque chose comme ça. Ça va être à travailler. Mais je ne suis pas sûr que ça...
D'ailleurs, en termes documentaires, je vous signale le...
C'est un tout petit peu en dessous, c'est le...
Voilà. Enfin, je vous signale en termes documentaires, donc le lien que j'ai mis, c'est le lien vers l'article 9. Donc, ont été rendus publics donc les arguments. Et il y a ici, notamment dans les sources, une bibliographie très, très intéressante de tous les liens importants qui ont pu être apportées à l'argumentation. Et là, vous voyez que l'article a quand même reçu pas mal de votes, mais que ce soit pour ou contre, même les votes contre étaient intéressants.
Ce contre, en général, ils disent qu'ils veulent un embargo plus court que ce qu'il
y a. C'est essentiellement ça. Quoi qu'il y ait aussi des votes contre tout court, des éditeurs. Il y a Dalloz qui s'est... par exemple. Mais ils ont fait ça tout à fait de façon très transparente, ça qui est très bien.
Une question de fond.
Je suis un peu perdue là, suite à ce que tu dis, Marie, mais je vais disposer d'un droit, etc., en droit français. Mais en tant que personne française, etc., j'en dispose. Et si je vais à l'encontre d'un copyright ou d'une loi internationale quelconque, je peux être de toute façon poursuivie.
C'est ça que tu dis ? Nous, dans le domaine scientifique, les revues, quand je signe des copyright agreements, c'est toujours en droit du copyright. C'est comme ça. Parce que les éditeurs, ils sont pas idiots, ils se mettent dans le système.
Oui,
système.
Il n'y
a jamais eu de procès en fait.
Si. Il y a eu des procès, mais faits à des institutions. Il n'y a pas eu de procès fait à des chercheurs jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a eu des procès faits à des bibliothécaires qui avaient divulgué des contrats, mais ça c'est un peu autre chose. Il y a eu des procès faits à des institutions quand il y avait quelque chose qui était sur le repository qui n'était pas autorisé. Et ils ont aussi attaqué Academia, je crois, ou je ne sais plus, ResearchGate.
Les deux. Voilà.
Donc ma question, c'est ce droit dont je vais pouvoir disposer si la loi passe, qu'est-ce que concrètement je peux en faire?
Non, alors la chose auquel je faisais allusion, à mon avis, il a peu de chance d'être dans la loi. Stéphane, si tu n'attendais pas de retourner juste sur l'article 9, et c'est en fait, c'est Alain Bensoussan qui l'a mis, et c'est le compte rendu de ce groupe de travail, et il y a un passage qui est particulièrement intéressant, qui traite de ça, mais c'est un complément, c'est une chose qu'on propose d'ajouter au texte de loi qui n'est pas dans la version. C'était à 21h le dernier jour, tout en haut, c'est sur la page vraiment tout en haut, voilà. L'article 9.
Juste sur l'article 9.
Voilà, mettre juste en dessous de ça, deux trucs en dessous. Voilà, Alain Bensoussan, clique là-dessus. Ça, c'était fait à la fin, donc c'est pour ça qu'il y a très peu de vote. Le site s'est fermé à minuit. Et regarde, là, c'est le compte-rendu, tu descends, voilà, tu descends encore, voilà. Voilà, le compte-rendu, voilà, c'est ce que le groupe de travail donnait. Bon, les écrits scientifiques sont des biens communs. On veut que le data mining ait été enlevé, mais ça, c'est un truc un peu compliqué. Et on veut le remettre, descends encore, blablabla, data mining pour expliquer, mais c'est un peu compliqué. Les données scientifiques à financement majoritaire doivent venir à un bien commun informationnel. La valorisation des contenus, on continue, c'est le plus petit. Voilà. Descends encore, la dernière. Les clauses de cession exclusives doivent être déclarées nulles et non avenues. C'était ça le terme technique qui m'échappait, je l'ai trouvé. Il est souhaité la prise en compte des risques d'asymétrie contractuelle. Asymétrie contractuelle, c'est moi, le pauvre chercheur tout seul, on me demande de signer une feuille de papier. Si je ne la signe pas, mon article ne paraît pas, alors qu'il a été accepté par le comité éditorial. Vous montrer des copyright agreements, j'en ai peut-être même avec moi sous la main, et ils inventent toujours des nouvelles clauses. Le dernier copyright que j'ai eu à signer, je l'ai mis sur un site web, je pourrais vous le montrer. On me demande non seulement de donner mes droits de façon exclusive, mais beaucoup mieux que ça, on me demande de garantir que si quelqu'un utilise le résultat qui est dans mon article, par exemple un algorithme, à des fins dangereuses, c'est moi qui suis responsable. Je vous le sors. Je l'ai mis sur un...
En termes juridiques, on appelle ça des contrats léonins.
Voilà, la question, c'est nul et non avenu. En France, je pourrais me défendre en France.
Ben non, mais tu pourras quelque part... C'est le droit... Il n'y a pas un droit international. C'est ça le fond du problème. Et là, on parle de revues internationales qui ont des puissances de feu, des puissances financières et de lobbying. Le groupe Prix d'Elsevier, je crois que c'est 6,7 milliards de chiffre d'affaires. Si le budget du CNRS, c'est 2,5 milliards.
Si Harvard publie toutes ses publications en open access, c'est qu'il y avait de la place pour le
Harvard open access. Harvard ne publie pas. Non, c'est comme ici. Il y a un mandat, mais après, un chercheur a quand même la liberté académique. Donc, tu ne peux pas non plus obliger tout le monde à publier en open access. Par contre, ce qu'il faut, à mon avis, c'est que le système qu'on essaye de mettre en place avec cette loi, c'est que la loi nous protège. C'est-à-dire que même si on a, par exemple, donné bêtement de façon exclusive le copyright, parce que le contrat de l'éditeur, c'est écrit comme ça, tu ne peux pas le changer. Moi, j'ai essayé plusieurs fois, et ben, il refuse. Et alors,
Voilà, donc je ne rentre pas dans les détails, mais ça, et tous les chercheurs, on est dans ce cas de figure. Et comme on est des individus et que collectivement, on n'est pas assez organisé, ben on n'y arrive pas.
Monsieur a levé la main avant, je crois.
Petite anecdote, mais il y a déjà eu un traité international pour le libre accès, c'est la Convention de Berne de 1886, autorisation de droit aux copies pour produits périodiques, sous réserve de citoyens. Donc tous les articles publiés en périodiques, y compris d'un scientifique, sont librement exploités dans tous les pays signataires de la Convention, qui ont inclus notamment aussi bien les États-Unis.
C'est les conventions de Berne, oui. En fait, ce que j'ai évoqué de 1951 s'appelle aussi la convention de Berne. Mais c'est effectivement les conventions de Berne, celles de l'OMPI en fait, qui sont en anglais. Vous allez sur le site wipo.int pour aller chercher tout ça, effectivement. Mais on l'applique en France. On l'a transposé dans le code de propriété intellectuelle, c'est le droit de libre citation.
Non, là je parlais vraiment de recopie intégrale des articles. C'est-à-dire cette disposition 1886, il y avait une exception au droit d'auteur. On peut recopier intégralement tous les articles, quels qu'ils soient, dans leur entièreté, sous le réserve de mettre à signer lecture, et ça a sauté au Congrès de Berlin 1905, donc un peu après, et il n'y a plus cette disposition qui a été mise en place. C'est pas très large, c'est pas très connu, hein, mais il y a vraiment eu un cas possible pour le libre accès à l'époque. Donc, toutes les revues pouvaient librement copier les articles publiés en deux revues signataires de la Convention de Berne.
Et là,
rappelle-le.
Rappelle-le. 1886.
Ouais,
mais il
va
y avoir prescription,
non, il y a sauté en 1905.
En fait, ça a été remplacé par le droit de revue de presse, mais qui n'a rien à voir avec.
Mais qui était lié justement voilà. À l'époque.
Mais qui n'a rien à voir avec la revue de presse que vous connaissez. Hein. C'est ouais. La revue de presse, il faut que ce soit un journaliste qui la fasse. Et un journaliste a le droit de reprendre un article d'un confrère.
Une précision parce que j'ai pas tout compris. Ce copyright, une fois qu'on l'a signé, il s'applique uniquement à la version paginée de l'éditeur ou aussi à la version qu'on a mise sur archive et qui,
Ça dépend du contrat.
Ça varie
justement. Faut bien lire le contrat.
Ça fait par écrit dans le truc très tout petit.
Ça fait dans les petits caractères.
Ouais, dans les choses aussi écrites toutes petites, il y a une chose très importante qui dit si vous êtes un civil servant, on va dire un fonctionnaire du gouvernement américain ou du Commonwealth, vous n'avez pas à donner votre copyright. Pourquoi ? Mais pour une raison très simple, parce qu'il ne vous appartient pas. Dans le cas des civil servants anglais, Commonwealth, ça appartient à la couronne d'Angleterre.
Crown copyright.
Et c'est pour ça qu'une voie possible, ça serait peut-être, je ne sais pas, je pose la question à Stéphane, de revenir avant la loi d'AFSI. La loi d'AFSI de 2006. Avant, le copyright n'appartenait pas à l'auteur en propre, parce que moi je travaille pour le CNRS. Je veux dire, voilà. Donc il faudrait peut-être.
J'ai pas le droit de parler de ça.
Ouais, non, d'accord, je ne veux pas prendre le droit de parler. D'accord.
Si mais c'est une anglais, alors,
possible, comment
si on publie avec un anglais, comme il y a la solidarité, comme. Ça appartient à.
Ah, oui,
dans les pays de Commonwealth, oui.
Bon, oui, non. La reine d'Angleterre, Elzire. Se débrouille avec la reine d'Angleterre. Parce que, très exactement, dans des situations comme ça, il y a encore des accords au-dessus. C'est-à-dire que toi, chercheur, tu signes rien, mais éventuellement ton institution va négocier. C'est, par exemple, les civils servants américains, j'ai discuté avec des gens qui sont dans des labos, des labos nationaux. En fait, quand ils publient un article, c'est en fait très compliqué parce qu'ils doivent l'envoyer à leur boss, chef d'équipe au-dessus, et c'est lui qui va décider si on a le droit de. Il a le droit d'aller plus avant, et en fait, la négociation se passe à ce niveau-là. Donc, il faut aussi faire attention, c'est-à-dire qu'on aime bien, le chercheur, garder notre liberté académique de décider ce qu'on fait. Donc, si tout appartient à une instance au-dessus, il faut aussi savoir ce que l'instance en fait. Moi, j'ai tendance à préférer, finalement, cette loi qui dit la cession à titre exclusif n'a pas de valeur. C'est aussi simple que ça. Et après, la cession non exclusive, ça pose aucun problème. Il y a autant de personnes veulent publier mon travail qui le publie, c'est tout bénéfice pour les chercheurs. La seule chose que je ne vais pas avoir, c'est pouvoir gagner de l'argent avec eux. J'ai jamais voulu gagner de l'argent avec mes articles, je suis déjà payé. Mais le salaire me suffit.
Cette clause de cession exclusive dans l'avenue, ne cache aucunement les éditeurs de droit, comme les éditeurs. C'est-à-dire, ils diront oui, en France, ça, et tout, c'est pas comme ça qu'on marche.
Ouais, je crois que t'as raison, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans le même cas, parce que c'est exactement ce que disait Stéphane, c'est que finalement, on est déjà protégé par des droits d'auteur. Mais la question, c'est au niveau international, comment on fait ?
D'accord,
C'est
une coalition de toutes les universités, parce que je pense que les universités ont la même volonté d'open access et peuvent faire un lobbying auprès du gouvernement américain ou de la Commission européenne.
Il y a des lobbying, mais le lobbying, c'est à qui est le plus fort le lobbyiste. Et ouais, nous, on est des chercheurs et on travaille à plein temps et on n'a pas qu'à ce que ça à faire. Mais en face de nous, on a des lobbyistes professionnels et qui sont.
Il faut s'organiser.
Il y a des 40% de profits, ils passent. Les 30% de profits, ils passent entre autres dans le lobbying. Hein, non, il faut, oui, il y a qu'un, mais c'est
pas évident.
Et puis un chercheur, il est débordé, il n'a pas le temps de réfléchir à tout ça. C'est pas. C'est pour ça que j'aime bien que les jeunes preniez les choses en main, en trouvant des solutions innovantes, des solutions originales qui permettent de contourner. Ou de faire avec. En fait, la solution qu'a proposée Dissémine, c'est très sage, parce que c'est une solution qui consiste, la loi elle est comme ça aujourd'hui, et on essaie de s'adapter au mieux de la loi comme elle est. Donc là, il respecte toutes les clauses des contrats des éditeurs, et simplement, il informe les chercheurs que, en fait, vous pourriez déposé, vous avez le droit, votre éditeur vous l'autorise, au moins la version pré-print, et vous ne l'avez pas fait, donc on vous offre un outil qui vous permet de le faire très, très simplement. Antonin, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Non, je pense que tu as bien résumé le projet de l'outil. Je pense qu'on peut s'arrêter là, parce que c'est
déjà... Oui, on avait dit jusqu'à 2 heures, mais c'est annoncé comme ça.
Si vous avez
une... Est-ce qu'il y a une question très urgente avant qu'on termine?
Est-ce que dépôt est actif maintenant? Parce que la dernière fois que tu as fait le démo, c'était encore marqué que
maintenant c'est actif.
Depuis quand?
Depuis aujourd'hui ou hier.
On peut commencer à en faire de la pub.
Tout à fait.
Encore une question? Et la dernière.
Un petit point technique, tu disais que d'un clic on pouvait déposer sur RAL, etc. Pour l'instant, la connaissance RAL est modérée. Oui. C'est les auteurs qui déposent. Oui. Je suppose qu'avec le niveau indexation, peut
déclarer
comme étant
dépositaire
possible.
Oui. Alors, possible.
Mais pour l'instant, c'est
techniquement
pas possible.
Pour HAL, c'est pour l'instant possible. On est en discussion avec le
CNCFD
qui
gère
pour pouvoir proposer ce service aux utilisateurs.
J'ai jamais réussi à déposer sur HAL.
Mais a priori, on pourrait très bien automatiser le dépôt via Dissémine et ensuite il serait aussi soumis à la même modération que si vous déposiez directement sur HAL.
Voilà, bon, des chercheurs comme moi, on dit à HAL depuis des années, d'ailleurs ça a été dit dans cette salle en juillet il y a 2 ans, j'ai organisé une conférence où il y avait Christine Berthaud, qui est la responsable du CCSD et donc de HAL en particulier, je lui avais dit, HAL doit moissonner, c'est pas au chef. Mais si, parce que, regarde, HAL, non mais j'explique. HAL, nous les chercheurs, quand on publie, c'est au niveau international, on a des co-auteurs. Et nos co-auteurs, si on dit on dépose dans HAL, ils nous regardent avec des gros yeux, et on dépose dans Archive. Dans ma communauté, on dépose dans Archive, c'est un fait. D'accord? Et HAL est site miroir d'Archive, et donc, en fait, HAL n'a qu'à moissonner à partir d'Archive, c'est pas très difficile. Et il connaît ses chercheurs. Le problème qu'a HAL, par exemple, surtout la V3, il me demande de mettre aussi dans quelle équipe je suis. J'imagine la notion d'équipe, parce que là, je vais être un peu méchante. Mais la notion d'équipe au CNRS, c'est très très simple. Hein. Vous, les bibliothécaires, vous pouvez vérifier tout l'organigramme du CNRS, la vingtaine, tout ça, en regardant qui publie avec qui. Et vous verrez plein d'équipes où les gens ne publient pas entre eux. Parce que simplement, ces équipes, c'est des trucs un petit peu bidons pour remplir des organigrammes. Ça dépend des domaines, hein. Je ne veux pas généraliser, mais moi, dans mon domaine, je peux donner des exemples. Et c'est très simple. Une équipe, c'est les gens qui publient ensemble. Voilà. Au moins, on peut vérifier a posteriori si l'organigramme est sain. D'accord? Donc, le problème, c'est que HAL veut que je mette mon équipe, qui pour moi est une équipe qui n'a pas d'existence, et ça, le mettre au niveau international, c'est un peu ridicule. M'attacher, alors qu'on m'attache mon labo, ça je suis d'accord, et encore, moi, je suis tout à fait d'accord mon labo, simplement je suis techniquement obligée de mettre toutes les tutelles de mon labo. Et moi, j'ai déjà une demi-page d'articles qui passe. Hein. On a 7 tutelles, quelque chose comme ça. Et plus maintenant les PSL et tous les labels et les autres machins, déjà il y a une demi-page d'article qui va finir par y passer. C'est du plus, au niveau international, ça fait rigoler tous nos collègues. Moi, ça me fait la honte, hein, faut dire la vérité. Donc, la solution Dissémine, c'est qu'on dépose, parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'article soit vu au niveau mondial, c'est ça qu'on veut. Alors que HAL a un autre objectif, il a un objectif d'évaluation des carrières des chercheurs. C'est pas le même problème.
Oui,
un petit peu quand même.
C'est son objectif.
Alors, mais pourquoi vous mettre les noms d'équipe et tout ça? À quoi sert de mettre les noms d'équipe?
Le nom d'équipe n'est pas obligatoire, c'est le laboratoire qui est obligatoire, normalement.
Oui, mais les tutelles. Les tutelles.
Un auteur affilié à un laboratoire.
D'accord, mais les tutelles. Alors pourquoi les métadonnées sont si compliquées? Moi aussi, à chaque fois.
Parce qu'on doit avoir cette affiliation obligatoire et du coup, ça rend les métadonnées compliquées. Elle est la seule archive ouverte au monde qui demande ça. Et c'est aussi la seule archive ouverte au monde qui ne moissonne pas.
Ben oui, mais il y a quand même un problème. Moi,
du coup, je le mets dans les sous-archives, mais dans le même cycle.
Moi, je suis pas toujours dans le même labo. Et de ce point de vue-là, Orchid, c'est la solution. Je mets toutes mes métadonnées dans Orchid, et quand je change de labo, Orchid sait que j'ai changé de labo. Et ça me semble être personnellement la bonne solution. Et à l'époque, Al a qu'à moissonner à partir d'Orchid et retrouvera tous ses petits. Là, c'est des trucs techniques. Je suis désolée de vous embêter, mais je pense qu'il faut avoir une règle générale. C'est qu'un chercheur, ça coûte cher en tant qu'à l'État, au sens où on est financé sur l'argent public. Et un chercheur ne doit pas perdre de temps avec ça. C'est contre-productif. Et je sais même que la bibliothécaire de notre labo, elle a toujours refusé de déposer dans HAL, parce qu'elle disait, moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça, c'est trop compliqué, c'est aux chercheurs de le faire, et nous, les chercheurs, on dit, bah non, on a déjà déposé dans Archive. Mais pourquoi redéposer une deuxième fois? Voilà, c'est ça le débat.
C'est le moissonnage qui parle.
Et c'est le moissonnage, HAL doit moissonner, ça. Simplement, bon, je peux vous dire les raisons, Christine Berthoud m'a bien expliqué, c'est qu'il manque de personnel, c'est pas évident. C'est pas évident.
Bon, c'est une des raisons
avancées. Voilà.
Qu'est-ce que vous faites avec 10 séminaires quand plusieurs co-auteurs déposent des versions différentes du même papier?
On montre qu'elles sont disponibles sous diverses versions, depuis diverses sources.
Là, après, c'est hors site que gère très bien le FRBR, donc c'est plusieurs versions. Donc il y a une œuvre avec plusieurs manifestations. Comme il pourrait y avoir des traductions, comme il pourrait y avoir des versions pré-print, post-print. Version de l'auteur 1, de l'auteur 2, c'est une facette différente.
Donc sur Dissimit, c'est un préalable d'avoir son article.
Oui,
ça
mais
paraît, ça paraît très
c'est
bien.
Souhaitable. Hein,
l'encourager.
Voilà, c'est le cas.
Ce serait bien que ce soit effectivement.
Voilà. Pour chercher les publications de votre collègue, ce n'est pas nécessaire, mais pour déposer les vôtres, oui.
Et s'inscrire dans Orchid, c'est une minute, hein, chrono en main. Hein, vous allez sur le site et puis on vous envoie tout de suite un numéro. Et cet identificateur est unique au niveau mondial, c'est ça le principe.
Et après,
Il faut le faire avant que les institutions le fassent pour nous.
Il faut le faire soi-même, ça c'est une démarche de chercheur, je pense. Hein. C'est ton identité de chercheur.
Ça sert aussi.
Et de chercheur qui risque de changer de labo, qui ne va pas tout passer toute sa vie nécessairement dans le même labo.
Ça gère aussi ses identités, ses noms, ses prénoms, ses accents. On peut déclarer toutes ses identités potentiellement numériques en une seule fois et dire qu'on est une seule et une personne.
Voilà.
Est-ce que vous pouvez rappeler qui c'est qui opère en qui?
Alors ça, c'est un petit peu compliqué.
C'est
un consortium.
Néerlandais.
C'est un consortium. Je sais qu'il y a le CERN dedans, par exemple, mais ça mélange des éditeurs, ça mélange des instituts de recherche, etc. Mais je crois qu'ils ont dans leur statut quelque chose qui dit que personne ne va en prendre le contrôle. Ils ont une clause qui empêche quelqu'un de tout prendre. C'est la grosse difficulté qu'on a dans le domaine scientifique, c'est que certains éditeurs, un petit nombre, qui sont tellement puissants financièrement qu'ils peuvent en gros tout racheter. C'est-à-dire un jour, il y a une jolie idée qui émerge, il y a des jeunes qui font une super plateforme qui résout et qui apporte un service aux chercheurs, comme par exemple Mendeley, vous avez entendu parler, et boum, quand les chercheurs utilisent Mendeley, elles virent, achètent Mendeley. Il y a eu la même chose avec Pio, il y a eu la même chose. Donc ça c'est d'ailleurs moi personnellement, c'est une chose qui fait que je ne voulais pas collaborer avec des startups à cause de ça, parce que si la startup marche bien, elle va être rachetée par les gros, on va avoir tout mâché de travail. Mais justement, Dissémine, donc je pourrais peut-être vous expliquer en une minute le fait qu'il y a eu une association loi 1901 qui a été créée, qui s'appelle le Comité pour l'accessibilité aux publications en sciences et humanités, où il y a la volonté exprimée dans les statuts de rester complètement indépendant et sans terre, sans financement. Et c'est autofinancé par les membres qui ont. L'équipe est petite.
On aimerait justement changer un peu ça.
Voilà. Mais c'est très impressionnant ce qu'ils font. Hein. Le site, c'est eux qui le financent. Tous ces outils sont financés par un groupe de 5. Et Voilà, mais n'importe qui peut rejoindre DICE. Je sais pas, bon, y a, dans les statuts, il y a écrit qu'il y a, qu'éventuellement le comité peut décider. Mais vous candidatez et vous êtes membre de. Moi, je sais pas, vas-y, dis-moi, Antonin, ce qu'il faut
non,
dire.
Non, mais vous pouvez nous rejoindre voilà. Si vous voulez aider à aller parler aux chercheurs, à développer l'outil, à trouver des financements.
Et on est une association de loi 1901, zéro cotisation, zéro euro de cotisation. Mais on aime bien faire un petit don quand même aussi.
Voilà, bon, moi je pense qu'on peut finir là-dessus.
D'accord.
Et merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci.